RCF.
Maurice Belet, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous accueillir chez vous à Paris. Avec vous, on va parler de votre vie, de votre parcours, des questions aussi qui vous tiennent à cœur. J'ai envie qu'on commence tout de suite avec votre enfance, puisque vous êtes né en 1923, entre les deux grandes guerres. Comment vous pourriez qualifier cette époque de l'enfance ?
Alors, du point de vue social, politique que vous venez d'évoquer, ça a été une période évidemment très dure, parce que c'est la période... On a vu monter peu à peu ce qui a éclaté en 1939, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale. De mon point de vue particulier, personnel, c'était une enfance assez pauvre, parce que j'étais dans un milieu simple, comme on dit, et une enfance qui n'a pas été malheureuse, mais où il y a eu quand même, comme ça arrive si souvent pendant l'enfance, pas mal de problèmes d'ordre familial, enfin...
Dans votre livre « La longue veille », vous dites de vous « enfant choyé ».
Oui.
Bon parent, père excellent.
Oui, certainement, certainement. J'ai certainement eu des bons parents, mais qui étaient de cette génération où tant de gens avaient des problèmes, qu'on va dire, affectifs. Enfin, ça n'a peut-être pas cessé, d'ailleurs. Mais enfin, peut-être que ça a pris un autre style, maintenant. C'était des générations qui avaient quand même eu des enfances dures, dans des milieux vraiment traversés, travaillés par les crises de cette époque-là. Enfin, la fin du 19e siècle, un moralisme quelquefois étouffant, des conditions matérielles difficiles, la Grande Guerre, 14-18, etc.
Et on ne parlait pas généralement à l'époque de ces souffrances ?
Ben, on n'en parlait pas beaucoup, non. On n'en parlait pas beaucoup. Et puis, enfin... Freud est passé par là depuis, avec la vulgarisation qu'on connaît, qui n'est d'ailleurs pas sans problème. Mais maintenant, on est beaucoup plus alerté sur certains aspects secrets ou masqués de ce que vivent les gens qu'on ne l'était à l'époque.
Et vous dites avoir été trop pieux, enfant. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot pieux ?
Bien, si vous voulez, je crois qu'enfant, j'ai pris la religion ou la foi, enfin, l'évangile, le Christ, extrêmement au sérieux. Ça vient certainement, oui, pour une part de mes parents, qui tous les deux étaient très sérieux dans ce domaine-là. Et c'est quelque chose qui, à la fois, bon, a une certaine grandeur, enfin, que je ne renie pas, mais qui peut devenir très dangereux. Parce que ça peut donner une piété un peu exaltée, un peu hors contrôle. Enfin, et dans mon enfance, il y avait sans doute un aspect comme ça. Ouais.
Mais en même temps, l'évangile est une chose sérieuse ? Vous avez
employé
le mot sérieux.
Non, mais il faut s'entendre sur le mot sérieux. Je veux dire, un côté un peu trop idéaliste, enfin, un peu trop extrémiste. Enfin, on n'est jamais trop extrémiste quand il s'agit de l'évangile. Mais quelque chose de, si vous voulez, oui, mais peut-être d'irréaliste. Enfin, comme, et ça a été un problème ensuite, ça. Comme si la vie idéale, la vie parfaite, la vie toute donnée sans ombre, pas d'ombre, c'était possible, c'est pas possible.
La vie idéale, pour vous, à l'époque, c'était de devenir prêtre ?
Oui, ça a été très tôt chez moi, cette idée. Elle a ensuite subi un certain nombre de secousses à plusieurs époques de ma vie, mais c'est venu tôt. Très tôt, je pense que mon père avait eu un désir comme ça.
Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce désir-là de devenir prêtre ?
Ah ben le désir de vivre entièrement pour l'Évangile, pour ce que l'Évangile apportait, avec un côté très marqué vers la fraternité, vers la vie fraternelle, vers l'amour entre les humains, enfin, qui était très caractéristique de cette religion de mon enfance, et qui l'est restée d'ailleurs. Ça reste pour moi quelque chose de... tout à fait fondamental, c'est qu'entre la relation à Dieu, l'amour de Dieu, la foi et tout ce que vous voulez de ce genre, et la bonne relation entre les humains, il y a non seulement un rapport, mais il y a coïncidence. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. La qualité d'amour que nous avons pour les uns, pour les autres, et Dieu, c'est la même chose. Et il y a une phrase de saint Augustin, qui est quand même une autorité dans l'Église, qui est impressionnante. La dilection, c'est-à-dire l'affection. La dilection fraternelle, non seulement ça vient de Dieu, c'est Dieu. C'est une phrase extrêmement forte. Mais ça, c'est vrai, je pense que c'est assez au cœur de ce que je crois et de ce que j'essaye de vivre, évidemment, avec une marge d'échec par rapport à l'idéal.
Grand témoin, Béatrice Soltner.
Maurice Belay, à 16 ans, éclate la Seconde Guerre mondiale. Pour vous, en tout cas, vous avez 16 ans. Hein.
Oui, j'ai 16 ans.
Comment est-ce que vous vivez ces temps très difficiles? Vous ferez souvent allusion aux guerres dans vos ouvrages.
Eh bien, ça a été vraiment des temps très difficiles. Même si, dans mon propre cas, j'ai été quand même très épargné par rapport à tant d'autres. Je n'ai pas été prisonnier, je n'ai pas été au STO, j'ai pas été déporté, j'ai pas fait la guerre. Enfin, bon, je suis parmi ceux qui s'en sont tirés sans trop de dommages. Mais les dommages, ils étaient quand même là, et la mort était très proche, enfin, que ça soit celle par la Gestapo ou celle par les bombardements. On vivait dans une proximité de la mort, et en même temps dans des frustrations considérables de tout genre, y compris alimentaires. Quand j'ai montré ma colonne vertébrale à un vieux médecin il y a quelque temps, il m'a dit « Ah oui, vous étiez J3 pendant la guerre », c'est-à-dire mal nourri. Hein. J'ai connu un peu, mais infiniment moins que d'autres, mais j'ai connu ce que c'est que la faim. Et la faim, c'est tout à fait autre chose que ce qui vous prend vers midi et demi au moment de l'apéritif, hein, la vraie. Mais j'ai quand même été très préservé, c'est vrai, j'ai pas eu les... Mais il y a eu dans ma famille le drame, parce que j'avais un frère, un peu plus âgé que moi, un demi-frère, qui avait 10 ans de plus, qui lui était militaire en Afrique, qui a choisi De Gaulle parmi les premiers et qui s'est fait tuer. Et nous avons appris sa mort en 1942, et depuis, mon père n'a plus jamais chanté. Alors qu'il aimait bien chanter, fredonner. Mais ce que je dirais de cette période-là, c'est que je crois que nos contemporains, parmi les gens plus jeunes que moi, non, je pense, aucune idée de ce que c'est que de vivre sous un régime totalitaire. Et nous, surtout à partir de 1942, mais dès le début, on était quand même sous la botte nazie, malgré Pétain. Hein, c'était quand même ça qui dominait. Et c'est quelque chose d'effrayant d'être dans un régime totalitaire, dans cette espèce d'insécurité permanente, de méfiance généralisée. Et encore une fois, je n'ai pas connu le pire. Ça a été bien pire en Allemagne, ça a été sûrement bien pire en Russie soviétique. Mais nous n'apprécions pas assez la liberté que nous avons, malgré toutes les nuances qu'on peut mettre sur cette liberté.
À l'époque, quand vous regardez cette humanité déchirée avec l'Holocauste, les camps, on voit sortir des gens dans des états incroyables. Quel est votre regard sur l'homme et sur Dieu aussi, à l'époque?
Mais à l'époque, je vais vous faire un aveu qui, je sais, aujourd'hui choque beaucoup de gens. Je ne savais pas. Je me revois en 1944, ou 45 peut-être, débouchant boulevard des Italiens à Paris et voyant les premières photos qui arrivaient des camps de concentration et demeurant hébété. Je savais bien sûr qu'il y avait des déportations, je savais qu'il y avait des camps de concentration, mais l'horreur de la guerre, enfin la pire horreur, moi, je ne l'ai en un sens connue qu'après coup. Alors il y a des gens aujourd'hui plus jeunes qui me disent « mais enfin, tu aurais pu savoir ». J'ai envie quelquefois de leur dire « je voudrais bien vous y voir enfin ». Alors, à l'époque, je dirais humblement que la première préoccupation qu'on avait, c'était de survivre.
On était loin de considérations sur le sens de la vie, de la barbarie. Il a fallu du temps pour
Il a certainement fallu du temps pour que je réalise ce qu'on vivait à cette époque-là. Ce que j'ai vu, que j'ai été protégé parmi les gens qui n'ont pas eu trop de problèmes. Même si en remontant le boulevard Saint-Michel et en voyant trois types en imperméable, je me disais, c'est peut-être la mort qui arrive. Hein. Il suffit qu'on m'arrête, que je sois embarqué comme otage, je ne sais pas quoi, que je ne trouve pas mes papiers, et hop. Hein. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. C'est surtout après coup que j'ai réfléchi à cette période. À l'époque, j'étais d'ailleurs au séminaire. Hein. Et je pense qu'à l'époque même, enfin, il y a eu des gens qui ont perçu tout de suite ce qui se passait. Bien sûr, il y en a eu. Mais il y en a eu beaucoup, et probablement le plus grand nombre, qui ne l'ont pas vraiment vu, dans toute son épaisseur. Parce que c'est très difficile, quand on est pris dans un événement collectif, de savoir vraiment ce qu'on vit. Je pense que c'est vrai à l'heure actuelle. Je pense que dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou plus tard, le jugement que nos successeurs porteront sur nous, ça sera pas triste. Hein.
Par rapport à quelle réalité vous...
Par rapport à plusieurs réalités. Par rapport déjà au fait qu'il y a toute une partie de l'humanité qui vit dans la gabegie et qu'il y a des centaines de millions d'hommes qui vivent dans le manque hurlant. Par rapport au fait que nous gaspillons les réalités, la nature avec une innocence, entre guillemets, incroyable, et que nous préparons à nos successeurs un monde qui sera peut-être inhabitable. Du fait encore que, après l'écologie de la nature qui a souffert, comme nous savons, et qui souffre encore, l'écologie humaine, c'est-à-dire que si on continue comme ça, on risque de préparer une humanité qui n'aura plus d'axe, plus de vertu, plus de certitude, plus d'ordre. Alors, oh, l'ordre, je suis un réac. Tartata, moi, je parle de l'ordre tout à fait premier qui permet aux gens de ne pas être pris dans la folie ou dans la perversion. Et à l'heure actuelle, il y a tout un aspect de notre société, remarqué assez bien par une certaine pub, qui dérive, on ne sait pas vers quoi. Dans 20 ans ou dans 30 ans, le jugement qu'on portera sur notre société sera peut-être pas plus tendre que celui que nous portons sur la société qui a préparé la Deuxième Guerre mondiale, parce que les années qui ont précédé l'ont engendré, cette Deuxième Guerre mondiale. On a vraiment fait les imbéciles, mais nous faisons encore les imbéciles. Et à l'heure actuelle, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le minimum de distance nécessaire pour s'en apercevoir. Ils vivent, ils survivent. Le problème, c'est de gagner sa croûte, c'est d'arriver à exister dans son coin. Et on peut les comprendre. Je comprends que le problème pour un chômeur, ce soit de trouver du travail. Mais le travail actuel s'inscrit dans une économie mondialisée qui est saisie de délire. Enfin, il y a quand même un certain nombre de gens qui s'en sont aperçus, il n'y a pas que moi. Il y a quelque chose de fou dans ce système. Mais on est dedans, on habite là-dedans, et puis le problème, c'est de savoir ce qu'on va manger ce soir ou qu'est-ce qui passe à la télé. La distance vis-à-vis de ce qu'on vit personnellement, et à plus forte raison collectivement, c'est une chose très importante, mais qui n'est jamais très facile.
Pour quelle raison ?
Parce qu'il faut prendre distance, c'est-à-dire il faut accepter de porter un jugement critique qui peut mettre en cause, et sa propre vie, qui met toujours en cause d'une certaine manière sa propre vie, la vie des autres, qui peut être... irritante pour l'entourage, qui peut vous créer des problèmes. Vous savez, être résistant en 1940, en 45 c'était plus facile, mais être résistant en 1940, c'était, il n'y en avait pas beaucoup, parce que c'était vrai. D'abord, ça supposait qu'on juge la situation, qu'on soit capable de penser qu'au fond Pétain était illégitime, alors qu'il avait été élu légalement par l'Assemblée. Et ça supposait qu'on puisse... décider, n'est-ce pas, de s'opposer à une force incroyable, de mettre en péril les siens, de risquer sa propre peau, etc., etc. Résister. Il y a aujourd'hui un certain nombre de gens qui disent que la situation mondiale est en train de devenir telle qu'il y a aussi maintenant un certain type de résistance nécessaire. Mais quand c'est très sérieux, c'est très coûteux. Alors je le dis avec un peu d'humilité, parce que je résiste modérément, mais enfin bon... Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est en cause.
Maurice Belet, vous avez beaucoup dénoncé les idéologies du XXe siècle, nazisme, stalinisme. Vous critiquez aussi l'économie actuelle. Alors pour vous, c'est une nouvelle sorte d'idéologie ?
Madame Geneviève Antonioz de Gaulle, qui n'a jamais passé pour une gauchiste, a dit qu'elle avait connu dans sa vie trois totalitarismes. Le nazi, qu'elle a connu de près, s'il vous plaît, camp de concentration. Le soviétique est maintenant le totalitarisme de l'argent. Alors, dénoncer le système nazi et le système soviétique, c'est à la portée de tout le monde. Ils sont morts, enfin, même s'ils se perdurent ici ou là. Bon. Ce qui est plus intéressant d'ailleurs que de dénoncer, c'est d'analyser, de voir qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Comment est-ce que ça a été possible ? Parce que finalement, je pense que dès le 2 août 1914, mais à plus forte raison avec ce qui s'est passé au moment du nazisme et avec les crises successives du système soviétique, c'est l'âge moderne, le bel et grand âge moderne des Lumières et de la raison qui a capoté. Il y a quelque chose qui s'est effondré, mais la nouvelle ne nous est pas encore tout à fait parvenue, hein. Mais il y a quelque chose qui s'est effondré.
On rêve encore aujourd'hui que le modernisme nous apporte toutes les solutions.
Alors, bien entendu, je ne suis pas un anti-moderne, parce que si j'étais un anti-moderne conséquent et honnête, je ne serais pas en train de parler devant un micro, je n'aurais pas pris le bus pour venir, et quand j'ai eu ces graves ennuis à la colonne vertébrale, je ne me serais pas fait opérer. Hein. Il faut aller vivre dans les montagnes et manger des cacahuètes ou des racines. Hein. Être anti-moderne, ça veut dire quoi? On est tous dedans. Mais on peut penser que même s'il y a dans ce monde moderne des progrès quelquefois fulgurants, ces progrès portent en eux un danger. Et si ce danger, on n'a pas le courage de lutter contre, ce qui est progrès peut tourner en catastrophe.
Mais comment regarder le monde qui est notre monde actuel, avec ses défauts certes, mais comment l'aimer? Parce que la tentation, c'est de le juger.
Notre monde, c'est les gens. Alors, les humains, quelle attitude fondamentale il faut avoir envers les humains? En tant que j'essaye d'être un disciple de l'Évangile, je dis qu'il convient de les aimer au sens évangélique du terme. Ça ne veut pas dire être gentil puis avoir des sentiments douceâtres envers tout le monde. Ça veut dire avoir une attitude positive envers les humains, ne pas les juger, ça c'est fondamental, ne pas les condamner, ne pas les exclure, ne pas les détruire, ne pas travailler à leur ruine, espérer quelquefois contre toute espérance que tout être humain a une possibilité de vivre, avoir du respect même pour l'idiot, le crétin, le pédophile, le déviant, enfin c'est cette attitude fondamentale là, oui, dans la mesure où je peux, parce que je m'aperçois, heureusement que je m'aperçois de temps en temps que j'y manque, hein. Que je juge les gens, que je méprise, etc. Bon, ça, c'est fondamental. Alors, si le monde, c'est ça, alors là, c'est une attitude qu'il faut aimer le monde. Mais si le monde, c'est la façon dont fonctionne la société actuelle, alors là, je pense qu'il faut avoir ce double jugement que j'évoquais tout à l'heure. Pas être contre, simplement, ça veut rien dire. Hein, et être, au contraire, capable d'apprécier tout ce qui peut se faire de beau et de grand dans ce monde, mais en même temps, être capable d'un jugement critique qui peut être extrêmement dur. Et c'est ça qui est difficile, c'est de tenir tout ça à la fois. Parce que vous avez des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, mais ça veut dire quoi? Les gens contre, encore une fois, à la limite, c'est pas possible, on baigne dedans. Et les gens pour, c'est souvent des gens qui méconnaissent qu'il y a au travail, dans ce même monde, un virus terrible. Ou si vous préférez, au milieu de cet univers, de cette galaxie scintillante, d'un tas de choses, il y a un trou noir qui risque de se développer. C'est-à-dire, ce qu'on constate chez un certain nombre de gens, enfin, une espèce de dépression inaugurale. C'est pas un hasard si la dépression, c'est la maladie, j'allais dire, à la mode. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, déprimer? Ça veut dire que des gens sont saisis par une tristesse, par un sentiment de néant, par un chaos intérieur. Et ça, c'est quelque chose que, pour une part, par un de ses côtés, et à cause de la grande crise que j'évoquais autour des guerres mondiales, notre société produit, secrète. Et ça, il faut s'en défendre désespérément, si je puis dire. Ben, non, pas désespérément. Au contraire, espérément, si le mot existe. Hein, parce que ça travaille à la destruction. Moi, je suis très frappé par ça. Qu'est-ce qui a caractérisé le nazisme, qui a caractérisé le soviétisme, et ce qui peut caractériser tout un aspect de notre société, c'est que ça travaille à la destruction de l'être humain. Et vous savez qu'il y a un mot hébreu pour dire destruction, c'est Shoah.
Maurice Belet, vous avez parlé de dépression, des personnes dépressives, vous en rencontrez de temps en temps?
Oui, bien sûr.
Puisque vous êtes analyste?
Pas exactement. Quelqu'un qui écoute les gens. Alors, j'ai une formation psychanalytique, enfin, j'ai fait ce qu'il fallait pour ça, mais je ne prends pas systématiquement les gens en analyse, je reçois les gens qui viennent, et c'est souvent des gens qui ont lu des textes de moi, donc c'est pas la situation idéale pour un analyste d'avoir des gens qui ont lu ses idées. Ce sont souvent des gens qui ont lu des livres ou qui m'ont entendu et qui se sont dit « Ah, mais voilà quelqu'un qui parle de telle manière que peut-être je pourrais parler. » parce qu'à mes yeux, la fonction sans doute principale de celui qui écrit ou de celui qui parle en public, hein, c'est d'ouvrir un espace de langage tel que les gens puissent parler.
Vous avez fait une psychanalyse, Maurice Bellay?
Oui, enfin, vous savez, il faut être très prudent quand on dit ça, parce que faire une psychanalyse, c'est une formule tout à fait abstraite. Je connais des gens qui ont fait une psychanalyse et ils n'ont rien fait du tout.
Mais alors, vous étiez prête quand vous avez commencé ce travail?
Vous avez été
écoutée par quelqu'un qui, chaque semaine, vous écoutait.
Ouais.
Pourquoi vous avez choisi, vous qui étiez prête, de faire ce travail sur vous-même?
Vous savez, quand on fait une psychanalyse, il ne faut pas raconter de blagues. En général, c'est qu'on en a besoin, hein. C'est que j'avais des difficultés dans la vie, des impasses, pas de choses gravissimes, non, mais il y avait une souffrance de vivre, des aspects qui n'allaient pas bien, quoi. J'avais pas une urgence absolue, je crois que j'aurais pu continuer à vivre, mais vivre comment, je sais pas très bien, j'aurais peut-être eu à certains moments des problèmes un peu aigus, je sais pas.
Mais par rapport à la foi, on a dit, dans l'histoire de l'Église récente, que c'était un peu incompatible, Freud et l'Évangile.
Quand on dit psychanalyse, il faut savoir de quoi on parle. On peut parler de ce que j'appelle, moi, la psychanalyse culturelle. C'est-à-dire, il y a des livres, il y a des conférences, et c'est pas du tout insignifiant, hein. Ça peut même être très utile. Je connais des gens que la lecture d'un livre de Freud a mis en route, etc. Oui. Mais la psychanalyse réelle, c'est quand on la fait. Et ça, alors, c'est à chaque fois absolument singulier, selon l'analyste et selon l'analysant. Et tout peut arriver. Je connais des gens qui se sont convertis au christianisme au cours de leur analyse. Et je connais tel prêtre et religieux qui a perdu la foi et vraiment tout balancé au cours de son analyse. Donc, il n'y a pas l'analyse en général par rapport à ça. Alors, il n'y a pas de compatibilité, parce que ce qui fait le cœur de la psychanalyse, c'est que c'est un travail de vérité. C'est que quelqu'un accepte, avec l'aide d'une autre personne, une aide très spéciale d'ailleurs. Il ne s'agit pas d'avoir un camarade gentil qui vous écoute avec bienveillance, c'est beaucoup plus précis que ça. Mais avec l'aide de quelqu'un, quelqu'un essaye d'aller dans sa vérité, et en particulier d'entendre ce que lui-même dit. Entendre sa propre parole quand cette parole n'est pas barrée par toutes sortes d'interdits dont il n'a même pas conscience. Il y a une définition de Freud soi-même de la psychanalyse, moi, qui m'a toujours beaucoup plu, c'est un constat loyal. C'est s'apercevoir qu'on est ça, et pas ce qu'on imaginait être. Alors évidemment, si quelqu'un a bâti toute sa religion pour conforter une image de soi qui est masochiste ou paranoïde,
Bonne
psychanalyse, ça fait écrouler ça. Mais si c'est quelqu'un pour qui l'évangile se situe ailleurs, c'est différent. Alors, ce qui peut arriver, moi j'ai reçu beaucoup de gens dans cette situation, c'est qu'au cours de l'analyse, ce qui dégringole, c'est tout ce qui, dans leur religion, a été bâti sur leur misère. Mais il arrive que reste au cœur quelque chose qui ne peut pas et qui ne doit pas périr, et qui est, pour eux, à ce moment-là, le cœur de l'Évangile. Seulement, ces gens-là se trouvent, par rapport à la religion telle qu'elle fonctionne, par rapport au milieu catho, par rapport à ce qui se dit en chrétienté, ils se trouvent souvent en porte-à-faux, parce que ils peuvent s'amener avec une critique radicale d'un certain nombre de choses qui, pour les autres, ça va, ou même c'est nécessaire, hein. Alors ça, c'est un problème. Étant donné la place où je suis, j'ai plutôt rencontré ce problème-là.
Grand témoin, Béatrice Soltner.
Maurice Bellay, vous dites que l'enjeu pour chaque homme et chaque femme, c'est de naître en humanité.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ah, si vous le savez, enseignez-le-moi. Non, ça veut dire qu'il faut se méfier, justement, de donner une réponse comme ça, toute faite. Naître en humanité, c'est... J'en donnerais une indication négative, c'est se séparer de ce qui nous détruit. Et de ce qui nous détruit, de ce qui nous avilie, de ce qui nous met dans la fausseté, dans le mensonge, dans la haine, dans la rapacité, dans la tristesse. peut-être que naître en humanité, c'est très primordialement se séparer de la tristesse. Pas la tristesse d'un deuil ou d'un ratage quelconque, enfin on peut être attristé, mais la tristesse fondamentale, le dégoût de l'être, enfin la faute d'exister. Naître en humanité, c'est sans doute, mais oui, on n'en sort pas. Accepter de ou arriver à s'aimer soi-même de telle manière que ça coïncide avec le juste amour du prochain.
Et en quoi le Dieu des chrétiens, le Dieu de Jésus-Christ, peut-il aider un homme, une femme à vivre cette naissance?
Ben, j'aurais envie de vous dire que cette indication de la naissance de l'humanité que je viens de donner, s'aimer soi-même en vérité, et dans le même mouvement, aimer les autres, c'est aussi bien aimer, mais être aimé dans cette région tout à fait insaisissable, imprenable, inaccessible, qui fait qu'on boucle pas tout sur tout, ce que la religion traditionnellement nomme Dieu. Et que, évidemment, ce que je viens de dire, si c'est pas chrétien, alors c'est... c'est chrétien, c'est pour ça que c'est pas une définition générale. Enfin, c'est...
Mais ce Dieu des chrétiens, qu'est-ce qu'il a de différent? Aujourd'hui, on parle de tellement d'autres religions, d'autres philosophies. D'ailleurs, les chrétiens, c'est un peu la mode, vont voir, notamment vers l'Orient.
Oui, bah, c'est légitime, mais quelquefois ça m'agace un peu parce que j'ai le sentiment que la première chose que les chrétiens ont à faire, c'est déjà d'être un peu au clair avec leur propre Dieu avant d'aller voir chez les autres. Enfin, bien entendu, aller voir chez les autres, ça peut les aider aussi à avoir un peu clair sur leur propre Dieu. Mais il y a, je pense, c'est une pensée risquée, mais je vous la livre, et à ceux qui m'écoutent, qu'il y a une méconnaissance du christianisme ou de l'évangile qui est prodigieuse. C'est moi-même. Je crois que je suis au début du commencement de la compréhension de ce qui est en cause là, et que plus largement nous habitons encore, enfin la société moderne des croyants et des incroyants habite encore une conception de la religion, une culture religieuse qui est sur son déclin ou qui va falloir quitter. Enfin.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est quoi les signes de déclin de l'Église aujourd'hui?
Le signe de déclin le plus profond, à mon avis, c'est que ça ne répond pas. Enfin, l'Église, une certaine culture chrétienne ou catho, c'est que dans cette culture-là, ce que j'évoquais tout à l'heure, retrouver le centre de l'Évangile, le cœur de l'Évangile, que ce cœur de l'Évangile coïncide avec la naissance à une vraie humanité, que cette naissance à une vraie humanité coïncide avec l'apparition et la réapparition parmi les humains de cet amour, enfin cet amour, on ne sait pas quel mot employer, que j'évoquais tout à l'heure, et ça, normalement, ça se développe, ça se déploie dans tout un ensemble de pensées, d'activités, de rites même, et je pense qu'il y a un décalage entre ce qui est l'essentiel de l'Évangile et le mode culturel dans lequel ça s'est exprimé au cours des temps modernes. Voilà. Et il y a quelqu'un qui a dit là-dessus quelque chose d'assez fort, qui a dit carrément, nous sommes dans une tradition sclérosée, il faut tout repenser. Vous savez qui c'est? Le pape, Paul VI. Ah, c'est pas moi, hein? C'est le pape, c'est Congar qui cite ça. Nous sommes dans une tradition sclérosée, il faut tout repenser. Alors, c'est pas du tout pessimiste, ça, au contraire. Ça consiste à dire qu'il y a un avenir. Et ça veut pas dire qu'on met tout à la poubelle. Je rejette rien, moi, je suis pas de ces contestataires qui disent « Oh, mais pas quoi, l'Eucharistie, l'institution, etc. » C'est pas le problème du tout. Le problème n'est pas non plus de trier dans la religion ce qui me fait plaisir et ce qui me plaît pas. Alors, c'est vraiment une problématique très insuffisante. C'est de percevoir qu'il y a tout un ensemble culturel où la foi chrétienne s'est exprimée avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins de ratage. Et cet ensemble culturel, je pense qu'il nous abandonne en même temps que nous abandonne ce qui a été les idéaux et les convictions de la grande modernité. Le XXe siècle est un grandissime virage qui fait que nous avons inventé un autre mode de monde, de relations humaines, de pensée. Et ça vaut dans tous les domaines, ça vaut dans la religion, mais ailleurs aussi. Je crois que la philosophie, par exemple, ou la politique, si on regarde les choses de près, on s'y dit, mais là aussi, il y a une urgence de création. Mais l'urgence de création, ça coïncide avec une certaine attitude critique positive.
Oui, c'est pas tout détruire parce
non. Vous avez d'ailleurs dit un jour qu'il faut tout recréer, mais tout recréer, ça n'est pas tout perdre, c'est tout sauver. Et j'ai eu le...
Vous avez dit qu'il faut redire l'évangile en poème inédit.
En poème inédit. Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, Alain?
Ça veut dire qu'il est, à mon semble-t-il, de la nature de l'évangile d'être toujours le pas encore entendu. Il faut se rappeler que l'évangile apparaît comme une initiative énorme au sein d'Israël. Et que le rapport de Jésus à Israël, c'est pas dire il faut bazarder à Israël, la foi juive c'est fini, j'apporte quelque chose de différent. Pas du tout. C'est Moïse qui est dans la vérité. C'est la tradition d'Israël qui est dans la vérité. Mais qu'est-ce qu'il fait Jésus, ou Paul après? Il prétend faire la vérité de cette vérité même. C'est la vérité du deuxième degré. Mais ce que je crois, c'est que la vérité du deuxième degré, on peut essayer de l'exprimer, on peut écrire des livres, là, mais c'est un acte qui ne peut jamais s'arrêter. Et j'en suis à penser, je l'ai dit dans un bouquin, que peut-être que d'une certaine manière, analogique, donc il faut faire attention, nous sommes vis-à-vis de ce qu'a été notre christianisme dans une situation analogue à celle de Paul par rapport à son judaïsme. C'est-à-dire, c'est vrai tout ça, il ne s'agit pas de bazarder tout ça, mais il faut faire que cette vérité soit vraie pour nous, en nous, maintenant, et dans les ruptures que nous avons à faire avec nos illusions, enfin.
Maurice Belet, pour être entendu, en tout cas pour faire réentendre avec une oreille neuve l'évangile aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réécrire le credo? Il faut faire un effort pour rendre audible ce que pense l'Église, le kérigme, ces grandes choses de la foi?
Je suis convaincu qu'il faut inventer et créer ça, j'en suis tout à fait convaincu. Et même je pense que ce qui a été douloureux après le deuxième concile du Vatican, c'est que, je dirais ça comme ça, c'est mon point de vue, hein, le deuxième souffle a manqué. Le deuxième concile du Vatican a été perçu par un certain nombre de gens, et on les comprend, vu le rage et le travail qu'ils avaient fait, comme un aboutissement. C'était le grand final de leur entreprise, enfin, on arrivait au résultat espéré. Et un certain nombre d'autres gens ont pensé que c'était un début, qu'on avait commencé à ouvrir la porte, mais que le « il faut tout repenser », que disait Paul VI, à la fin du concile, pas au début, à la fin du concile, c'était l'ouverture d'un programme. Et je pense que le malheur, enfin provisoire, enfin, la difficulté de l'Église, c'est qu'il n'y a pas eu de création, d'invention, de pensée, de poétique, d'esthétique, de tout ce que vous voulez.
Pour renouveler le langage.
Ah oui, pour continuer sur cette lancée-là. Alors renouveler le langage, comme vous dites, oui. Mais renouveler le langage, c'est... Mais ça dépend ce qu'on met là-dedans. Il y a des gens pour qui renouveler le langage, c'est garder le langage de toujours, en mettant quelques passerelles pour que les gens qui n'en sont pas comprennent un peu de quoi il s'agit. Enfin, Et pour moi, c'est tout à fait insuffisant. Renouveler le langage, ça passe par une réforme de pensée qui peut être radicale. Moi, j'ai peur quand je dis ces choses-là. J'aurais presque envie de dire que je l'ai dit en marche arrière. Enfin, j'ai été poussé à les dire parce que ça me paraissait nécessaire. Entre autres, en entendant les gens qui venaient me voir, qui étaient dans la nécessité de trouver une manière de dire leur foi qui était autre que celle qu'ils avaient apprise. En particulier, une partie de mon travail, ça consistait à recevoir des gens en psychanalyse dont la religion se déconstruisait, et qui venaient quand même me voir parce que la foi leur importait. Alors, qu'est-ce qu'ils allaient trouver? Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Comment on fonctionne là-dedans? Mais il y a une urgence de créer. Mais c'est pas seulement vrai pour l'Église, c'est vrai pour toute la société.
En même temps, il y a des choses positives. On voit des jeunes, par exemple, qui vraiment découvrent ou redécouvrent la foi et qui prennent ça au sérieux.
Alors, bien sûr qu'il y a des choses positives. À Dieu ne plaise que je refuse de les voir. Mais là où il peut y avoir des différences, sans qu'on condamne, hein, c'est qu'il y a des gens qui peuvent redécouvrir la foi avec une espèce d'ingénuité qui est tout à plus que respectable, qui est peut-être excellente, mais qui fait qu'ils ne sont pas tellement sensibles aux problèmes que je viens d'aborder, parce que, par exemple, pour eux, c'est tout neuf, et ils ne voient pas comment tel langage qu'on emploie est un langage qui peut être usé ou travaillé de perversion, etc.
Vous voulez dire qu'il manque de critique ?
Ça peut arriver.
De sens critique ?
Oui, je pense que ça peut arriver. Il y a à l'heure actuelle, entre autres, c'est un certain nombre de jeunes, enfin, un goût du religieux, enfin, une foi, ou une orientation par là, qui peut, effectivement, je dis qui peut, manquer de critique. Et je pense que si, dans l'état où nous sommes, et après tout ce qui est arrivé, on manque de critique, un jour ou l'autre, la critique se réveille. Hein. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois dans ma pauvre vie. On endormait les affaires. Mais non, tout va bien, surnaturel, Dieu, puisque Dieu est là, etc. Et puis, un beau jour, oui. Mais la critique, c'est pas du tout tout démolir, hein. C'est opérer le bon passage. Après tout, critique, le mot au départ, c'est crise, c'est un mot de l'évangile. Alors ça, c'est un de mes grands dadas. Hein. C'est que la modernité a quand même beaucoup fonctionné sur l'opposition entre la croyance, où se situerait la foi, et puis la critique, qui est l'œuvre de la raison libre et maîtresse d'elle-même.
Évidemment. On a opposé les deux mondes.
Voilà. Et évidemment, le perdant, c'est la foi, là. Puisque le lieu de vérité, c'est la critique. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une lecture, une écoute de l'Évangile qui fait percevoir que l'Évangile est la critique absolue de l'homme.
Alors justement, j'aimerais qu'on parle un peu de l'Évangile. En quoi ce texte très ancien, finalement, est-il encore actuel pour nous et en quoi peut-il être subversif aujourd'hui ?
C'est-à-dire, écouter l'Évangile aujourd'hui, pour moi, ça coïncide avec dire une parole qui évangélise aujourd'hui, y compris notre propre religion chrétienne. Alors, il y a quelqu'un qui avait pensé ça, je crois, assez intensément, mais ça a tourné en une catastrophe épouvantable dont nous ne sommes pas remis, c'est Luther. Alors, pendant très longtemps, à l'intérieur de l'Église catholique, dire que Luther avait perçu quelque chose qui était essentiel, c'était quasiment blasphématoire. Mais je pense que la rupture catholique-protestant est une chose abominable que nous payons encore et qu'il faut absolument surmonter ça. Et surmonter ça, c'est pas simplement essayer de se retrouver d'accord à peu près. C'est comprendre que la crise qui nous arrive dessus, dans laquelle nous sommes, est tellement énorme et tellement plus grave que la crise du XVIe siècle que ça la relativise, celle-là. Hein. On n'en est plus là, c'est autre chose.
Grand témoin, RCF.
Maurice Belay, quel est le passage de l'Évangile qui vous plaît particulièrement et peut-être votre préféré ? Enfin, vous avez sûrement beaucoup de textes qui vous sont chers, mais quel est le texte qui vous marque le plus ?
Curieusement, dans le Nouveau Testament, les deux textes que je citerai tout de suite, et ce n'est pas dans les Évangiles, c'est dans les Épîtres. C'est le fameux texte 1 Corinthiens 13 de saint Paul, la charité, etc., qui est un texte... Alors, c'est typique, ça. Voilà un texte usé, rebattu, cité partout, la charité. Si je n'ai pas la charité, je peux connaître la langue des hommes et des anges, je peux... On le lit, on le relit et on n'entend pas. Enfin, un texte où il est dit que si je donne mon corps aux flammes, tous mes biens aux pauvres, et si j'ai le don de prophétie et tout ça, si je n'ai pas la charité... Et la charité, c'est l'humilité même, c'est elle ne juge pas, elle est miséricordieuse, serviable, elle croit tout, elle espère tout du prochain. C'est toujours révolutionnaire.
Et pourtant, ce texte, on l'entend sans l'entendre. Par exemple, c'est celui qui est le plus dit au mariage, je pense.
Oui, on entend ça. Et alors l'autre texte, c'est celui de saint Jean, archi connu aussi, Dieu est amour. Mais enfin, est-ce que quelqu'un a entendu quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. La connaissance de Dieu, quand même, hein, c'est pas rien. Eh bien, si vous aimez vraiment votre prochain, vous connaissez Dieu. C'est une des synthèses les plus effrayantes de la pensée humaine, ça, quand même, hein. Parce que la connaissance de Dieu, c'est la mystique, c'est la philosophie, c'est la métaphysique. Non, celui qui aime son frère connaît Dieu. Alors ça, c'est les deux textes qui, pour moi, peut-être... Et comme c'est par hasard, parce que je disais au début que, précisément pour moi, la coïncidence entre la relation à Dieu et puis la relation entre nous, c'est au cœur de ce qu'on appelle la foi chrétienne. Ces deux textes-là, c'est fulgurant.
Et l'amour fait partie d'un de ces deux textes. L'amour, un mot qu'on utilise à toutes les sauces.
Ah, alors la grande douleur. Quel mot on va employer ? Hein, si je dis amour, ça ratisse tellement large qu'on ne sait pas de quoi se parle. Si je dis charité, ben c'est un mot, c'est de ces pauvres mots chrétiens qui ont été usés jusqu'à la corde, et les gens imaginent quoi, un humanitaire un peu arrosé de piété, quoi. Bon. Et si je dis agapé, je parle grec. Alors comment je fais ? On fait comme on peut, mais c'est cet amour-là. Il y a un livre où j'ai parlé de la haute tendresse ou de la divine douceur. Enfin, il y a un mot, par exemple, dont l'emploi est vertigineusement difficile, le mot péché. Hein ? Si vous dites, nous qui sommes pécheurs, vous avez un tas de gens qui se lèvent en disant, mais quoi, de quoi, on n'est pas coupable. Alors il faut expliquer longuement.
Justement, tenez-nous votre définition de ce mot péché-là.
Alors, je pense que dans le nouveau, le péché, le mot, il y a plusieurs mots en grec pour dire péché. Hein. Le plus significatif, c'est amartia, la déviance. C'est la flèche qui rate le but. Donc, le péché, c'est une humanité qui va dans un chemin de mort. Mais le péché, c'est d'abord ce que nous habitons. Et ça, pour savoir ce qu'est le péché, vous n'avez qu'à lire le journal tous les matins, vous regardez la télé le soir, vous savez ce que c'est que le péché, c'est que nous habitons un monde où il y a une puissance incroyable qui va vers la mort. Bon. Deuxième aspect, prétendre à l'innocence, c'est imprudent. Il dira, mais moi, j'en suis pas du tout, moi, ça me concerne pas du tout, moi, je... pas du tout, vous êtes dedans. Alors, on peut dire que je suis victime, mais, vous savez, c'est un peu comme en psychanalyse, dans certains cas, enfin, la victime, elle est prise dans le processus, donc il faut se dégager du processus. Se dégager du processus, c'est le pardon. Alors, il faudrait aussi parler du pardon, parce que Dieu sait qu'il y a un mot qui est compromis, c'est celui-là. Mais le pardon venant de Dieu, ça veut dire que le Dieu dont le visage se tourne vers nous est tel que ce lien au péché se défait fondamentalement. Là, nous en sommes libres. Et c'est seulement quand nous en sommes libres que nous pouvons entendre ce qui est dit à propos du péché. L'Évangile ne parle du péché que comme les psychanalystes parlent de la névrose. C'est pas pour qu'on y reste, c'est pour qu'on en sorte. Et il y a un contresens au sujet du christianisme vertigineux. Beaucoup de gens l'imaginent comme une religion de la culpabilisation. Il y a des motifs historiques d'ailleurs. Mais le cœur de la prédication de Paul en particulier, c'est que précisément c'est fini.
C'est de sortir de la culpabilisation.
Sortir du péché dont la culpabilisation est un dérivé, etc. Bon, les rapports entre péché et culpabilisation, encore. Oui. Parce qu'un des aspects de ce que nous abordons, c'est que c'est des sujets dont le cœur est, je pense, très simple. Hein, parce que finalement, et c'est très intéressant ça du point de vue de l'Évangile, enfin, la personne démunie, qui n'a pas de culture, qui est analphabète, qui ne sait rien, ou même qui est peut-être un peu débile mental, enfin vraiment le très pauvre peut toucher le cœur. Toucher le cœur de la chose. Hein. Avoir, moi j'ai vu ça dans certains cas, des gens qui dans de très grandes misères, même psychiques, enfin, ayant entre tout à fait essentiel le son juste. Hein. Mais, dès que vous vous mettez à travailler là-dedans, c'est une tâche infinie, parce qu'il faut faire une critique du langage, une critique des institutions, et qui ne concerne pas simplement l'Église et l'institution, ça concerne, pour nous, ça concerne tout l'âge moderne, toute la culture où on est. Parce que, pour dire grossièrement et de façon abusive, une société a la religion qu'elle mérite. Si vous trouvez que la religion chrétienne, c'est pas au point, c'est la religion que l'Occident s'est fabriquée. Hein. Bon, on peut dire les choses comme ça. Et d'un autre côté, ce qui se passe quant à la religion dans une société, c'est toujours extrêmement significatif de l'ensemble de cette société. Thank you.
Grand témoin, Béatrice Soltner.
Maurice Belay, on arrive pratiquement au terme de cette émission. Vous arrivez-vous pas encore à la
au
fin
terme
de votre
ma vie,
vie
c'est mais... ça que vous allez dire. Hein bah, mais dites-le, dites-le.
Non, mais vous vous rapprochez quand même du passage.
Ah oui, oui, ça, il n'y a pas de doute.
Vous y pensez?
Oui.
Et est-ce que ça se prépare, le rapprochement comme ça de ce passage, la mort?
Ben, je vais vous dire comment je le ressens, moi. C'est comme ça, hein. Ça me rappelle un souvenir d'enfance où j'avais une composition de français où je me suis dit, je vais pas finir ma copie. Ils vont ramasser les copies avant que j'ai fini. Il y a un côté comme ça dans mon rapport à la mort. C'est comme ça. Je dis pas que c'est bien ni que ça va durer. C'est-à-dire, c'est comme ça. J'ai 80 ans pratiquement. Mais j'ai des projets. J'ai envie de faire des choses et je me dis, ça, je vais pas avoir le temps. Et alors, c'est vrai que, au-delà de ce sentiment-là, il y a, qu'est-ce que ça signifie, cette approche de la mort? D'abord, ça me donne un sentiment de très grande prudence parce que je ne sais pas du tout ce que ça sera. Deux ou trois fois dans ma vie, une fois devant une mitraillette allemande et une fois dans une salle d'opération. Et une fois, mais le danger n'était pas réel. Mais enfin, j'ai eu une crise psychosomatique aiguë. J'ai eu le sentiment que c'était en particulier devant la mitraillette. Là, j'ai cru... Le contexte était à côté d'Oradour, et c'était le même contexte. Seulement, nous, on n'a pas eu la division d'As Reich, on a eu de braves territoriaux qui avaient qu'une envie, c'est de ne pas avoir d'histoire. Mais sans ça, j'y passais. Très curieux dans la proximité de la mort, on ne sait pas du tout comment ça sera.
Vous n'avez pas de certitude.
Quant à la façon dont je mourrai.
Sur l'après, sur l'au-delà.
Ah, l'au-delà. Alors l'au-delà. Ha ha. J'ai un ami qui est prêtre, d'ailleurs, qui avait cette formule un peu extrémiste que je livre à la radio. C'est peut-être un peu imprudent. Enfin, il y a des gens qui pourraient l'entendre mal. Dire qu'il y a quelque chose après la mort, c'est aussi absurde que de dire qu'il n'y a rien. Ce que ça signifie, c'est que quand nous parlons de l'après la mort, nous en parlons de l'intérieur de ce monde et en projetant dans l'après la mort toutes nos catégories, nos habitudes,
nos
images et tout ça. Alors moi, je serais tenté de dire que ce qui est au-delà du monde visible et perceptible qui nous appartient, ça nous échappe. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Non. Et je pense que dans la foi au Christ, il y a la foi que le réel de ce que nous sommes n'est pas contraint et limité dans ce que notre expérience spatio-temporelle nous donne au cours, j'allais dire, de notre vie animale, enfin. Mais d'un autre côté, je crois qu'il n'y a pas de savoir de ça. Et j'ajouterais quand même que l'un des traits de l'affaire, c'est que cet au-delà soit déjà ici. De sorte que ce qu'il faudrait retrouver, c'est cette connexion entre, je crois, en la vie éternelle, et ce que ça implique de dépassement de ce que je peux voir, toucher, palper, etc. Et puis, cette vie éternelle en nous, dès maintenant, et éviter qu'il y ait la coupure entre ben, la vie, c'est comme ça, elle est ce qu'elle est, hein, et puis alors, après, il y a un autre monde où, qu'on imagine, et ça ne fonctionne pas comme ça, si j'ose dire. Mais ça fait partie aussi typiquement de cette espèce de révision de pensée très profonde dans à laquelle nous sommes maintenant invités, je crois.
Vous restez confiant pour l'avenir, pour les générations futures?
C'est une question suspecte. Parce que dire oui, je suis confiant, c'est être optimiste. Dire non, je ne suis pas confiant, c'est être pessimiste. Et mais je ne perçois pas les choses de cette manière. Parce que si vous avez des raisons d'espérer comme ça en l'air, c'est pas grand-chose, c'est une manière de vous consoler. Mais les raisons d'espérer, ça veut dire qu'on pense qu'il n'est pas vain de travailler pour l'avenir et de travailler à longue distance, d'investir sur le long terme. Et ça, c'est vraiment une chose que tout un esprit contemporain, le zapping, tend à abandonner, pas d'épaisseur. Ni d'épaisseur de la mémoire, ni d'épaisseur de l'avenir. Restaurer l'épaisseur de la durée est une des tâches révolutionnaires qui, je crois, sont nécessaires aujourd'hui. C'est-à-dire, croire en l'avenir, c'est, vous savez, le vieux qui plantait des arbres à la fontaine, passe encore de bâtir, mais planté à cet âge. Et il répond, mes arrières neveux me devront cet ombrage. Donc, croire en l'avenir, c'est travailler pour l'avenir. et travailler, encore une fois, dans l'investissement à long terme. C'était, par exemple, quand je parle d'une réforme de pensée qui est profondément nécessaire à l'intérieur de la foi chrétienne et à l'intérieur du monde actuel, il y a des gens qui peuvent dire, vous comprenez, c'est pas le problème. Le problème, c'est le chômage, c'est la détresse des jeunes, c'est la drogue, c'est Bush, c'est l'Irak. Oui, bien sûr, il ne s'agit pas de le nier, bien sûr, il faut travailler à ça. Mais si on veut vraiment travailler pour l'humanité, comme disait le vieux Karl Marx, il faut retrouver quelque chose du courage des vieux de la vieille qui étaient prêts à travailler pour dans 100 ans. Enfin, si vraiment j'espère, et même j'espère au-delà de ce qui est visible, enfin, j'espère une espérance ouverte, hein. J'espère, ça doit, c'est réel, si ça me fait travailler, sinon c'est du baratin. Enfin, hein, je mets de la pommade sur les douleurs de l'humanité en disant, vous savez, ça ira mieux demain, nous aurons des lendemains qui chantent, l'expansion, mais ça va se ranger, ça ne s'arrange pas du tout. Hein. Ça s'arrange de travers, ce qui est peut-être pas beaucoup mieux, parce que quand on voit la façon, par exemple, dont la Chine se lance sur nos traces pour arriver à ce que chaque Chinois ait deux voitures, on se dit... Bon,
c'est mal parti.
C'est mal, c'est pas nécessairement le meilleur qui pourrait arriver. Quoi.
L'insaisissable, c'est la définition que vous donnez de Dieu. Enfin, vous avez donné cette définition. Justement, comment vous voyez l'après ? Pour vous, c'est le voile qui se lève et vous connaîtrez enfin celui que vous avez cherché.
Je ne vois pas l'après. Je ne le vois pas. Je peux reprendre, entendre, risquer des expressions comme celle-là, qui est assez proche de 1 Corinthiens 13, la fin du chapitre. Maintenant, nous connaissons inénigmaté comme dans un miroir. Et alors, commentaire très classique des exégètes, les miroirs de l'époque n'étaient pas fameux. Bon, je le vois dans un miroir, après je verrai directement. Bon, Paul dit ça, et j'écoute cette parole et je la reçois. Mais il n'y a pas photo. Hein. Il y a un non-savoir fondamental de tout ce qui concerne Dieu.
C'est souvent difficile de lâcher prise, justement, par rapport à ce qu'on sait de lui.
Si c'était facile, ça saurait, comme on dit vulgairement. Bien sûr que c'est difficile. Personne n'est arrivé au bout et peut dire, moi, vous savez, j'ai la connaissance de Dieu, je sais comment c'est, je peux vous faire visiter. Il y a... Vous avez parlé justement de lâcher prise, c'est un thème très important. Et comme par hasard, c'est quelque chose que les Occidentaux, assez généralement, ont perdu. Hein. Ou bien ils maîtrisent, ou bien alors lâcher prise pour eux, ça veut dire fainéantiser sur la plage. Enfin, c'est rien, quoi. C'est lâcher prise, c'est laisser aller, laisser aller. Ou alors on conduit, on gouverne, on maîtrise. Et l'une des raisons de la fascination d'un certain nombre d'Occidentaux pour l'Orient, c'est que précisément là-bas, il y a des gens qui ont une expérience et même des techniques de lâcher prise. Mais il y a au cœur de la foi chrétienne un énorme paquet, si je puis dire, concernant le lâcher prise, qui consiste à dire que ce qui nous advient de bon, c'est par grâce. C'est un thème chrétien alors qu'il a souffert très durement, c'est celui-là, parce que pour pas mal de braves gens, la grâce, ça veut dire que quand on a bien fait, avec la morale, hein, la morale, bien fait, en plus, on a deux devoirs supplémentaires, il faut dire que non, c'est pas nous qui avons bien fait, c'est Dieu, et en plus, il faut lui rendre grâce. Alors, à la place d'un cadeau, vous avez deux devoirs supplémentaires. Mais non, l'idée fondamentale, c'est que ce qui est premier pour l'être humain, c'est la chose extrêmement simple et arrivée à l'entendre. Ce qui est premier pour l'être humain, c'est qu'il est aimé de Dieu. Alors, c'est un langage qui a tellement servi, mon Dieu. Mais si on pouvait l'entendre, il est aimé de Dieu, ça lui est donné, il n'y a pas à le mériter, il n'y a pas à payer. Et même s'il était le plus grand des pécheurs, comme dit la petite Thérèse de Lisieux, l'énormité de son péché par rapport à la surabondance d'amour qui vient de là, c'est rien. Donc, ça signifie qu'il n'y a pas d'homme condamné. Que l'être humain qui est dans l'embas le plus profond, dans la détresse, l'avilissement, la honte, il suffit qu'il se tourne vers cette lumière, et c'est une lumière qui vient par la parole, pour que, fondamentalement, c'est fini. Même s'il traîne encore des casseroles toute sa vie, c'est fini. Il est du côté de la vie.
Maurice Belet, merci.